enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Merci à l'équipe de musiciens, de chantres qui nous bénit ainsi. Regardons ensemble dans la parole de Dieu, au livre de la Genèse, le livre des commencements, chapitre 14. Pour ceux qui sont nouveaux avec nous, peut-être vous n'avez pas de Bible, eh bien tous les versets que je vais citer vont apparaître à l'écran. Nous allons lire dans Genèse en quelques minutes et continuer avec notre série ce matin depuis le début de l'année. Seigneur, augmente notre foi. C'est beaucoup plus qu'un thème ou qu'un titre, c'est la quête. C'est le cri de notre cœur, nous désirons ensemble entrer dans cette dimension, nous emparer de cette dimension, où nous allons voir l'invisible, croire l'impossible et renverser l'irréversible. Voulez-vous dire à voix haute, voir l'invisible, croire l'impossible et renverser l'irréversible. Nous avons pris Romains et avons entendu la voix de Dieu. Et si vous vous joignez à nous, voici ce que Dieu dit à chaque chrétien dans ce lieu ici ce matin, à chaque personne dans ce lieu ici ce matin. Dans Romains chapitre 4, Dieu dit à chacun d'entre nous, « Je t'ai établi devant Dieu en qui tu as cru, qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Sans faiblir dans la foi, vous croyez et donnez gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a la puissance de l'accomplir. » Il y a des versets qu'il faut dire en souriant, alors je vais leur dire une autre fois. Ce que Dieu a promis, il a la puissance de l'accomplir. Je vais le dire pour l'autre moitié qui n'a pas dit « Amen » encore. Ce que Dieu a promis, il a la puissance de l'accomplir. Et c'est notre foi, c'est notre confiance. Et nous avons commencé avec le début de la vie d'Abraham et à chaque étape, de la vie d'Abraham. Nous avons regardé des vignettes de sa vie, le père de la foi, et nous sommes agenouillés à ses côtés pour dire, Seigneur, augmente notre foi. Et on va regarder à la vie d'Abraham encore ce matin, mais depuis le commencement, et quelle bénédiction de voir et de recevoir des centaines de courriels de gens de Longueuil, mais aussi de partout au Québec qui suivent les réunions par Internet ou à travers la francophonie et qui se sont joints à ce cri. On a entendu l'appel. L'appel de Dieu à Abraham a été le nôtre. Lorsque Dieu a dit à Abraham, « Va-t'en de ta patrie, sors de la maison de ton père et dans le pays, entre dans le pays que je te montrerai et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Des milliers de personnes ont capturé ce cœur dans toutes sortes de réunions, dans un 21 jours de jeûne et de prière, dans des appels, dans toutes sortes de réunions spéciales où des multitudes se sont approchées, pour commencer à dire « Seigneur, je veux » et saisir cette pensée toute simple mais tellement profonde. « Je veux, Seigneur, avec ma vie, être béni par toi. Augmente ma foi. » Afin que je sois béni, pas pour être un récipient seulement, mais afin que je sois béni et être en mesure de bénir d'autres. Alors que cette image de Jean en prière est devant vos yeux et devant votre cœur. J'aimerais vous lire une lettre toute simple que j'ai reçue d'une dame témoigne de elle et sa famille qui a vécu des choses miraculeuses. Et j'ai été touché parce que dans sa prière et dans son cri, je crois qu'il y a le cri de plusieurs ici ce matin. Elle écrit « Cher pasteur Roux, j'ai été loin des églises depuis 10 ans. J'avais été meurtri, blessé et je m'étais éloigné. À l'été 2005, je suis revenu à Dieu en écoutant la série sur les psaumes à la radio. Dieu avait préparé toute une série de bénédictions pour moi. Je suis dans la planification financière depuis 25 ans, mais rien ne pouvait prédire la richesse qui m'attendait avec Dieu. Mon mari est revenu à Dieu 2 mois plus tard. Mes 2 fils de 21 et de 23 ans qui étaient entièrement rétrogrades sont revenus à Dieu aussi. C'est un miracle. On ne manque pas un dimanche. Nous vivons des guérisons et des délivrances. On a tous jeûné une journée par semaine pendant les 3 semaines du 21 jours. Nous nous sommes avancés pour prier en tant que famille et on veut la promesse d'Abraham. Nous voulons être bénis et bénir d'autres. Après la soirée, on a prié ensemble à la maison et j'ai écrit cette prière. J'ai été touché par cette prière de cette dame toute sainte de l'Église, mais qui représente tellement d'entre nous. Elle a écrit, « Seigneur, apprends-nous à sortir de la maison de nos pères. Apprends-nous à être libérés de nos passés familiaux, humains et religieux. Nous voulons prier, parler, aimer, pardonner, penser et agir afin de ne rien perdre de tout ce que tu as préparé pour nous. » Voici sa prière et je sais que c'est la vôtre. Nous voulons voir des miracles dans toutes les sphères de nos vies. Seigneur, je t'ouvre, et ça c'est une prière qui est dangereuse, pas dangereuse négativement, mais une prière qui, si vous la faites sincèrement, qui peut faire des choses puissantes. Seigneur, je t'ouvre toutes les portes de nos vies et de nos cœurs. Je ne laisse aucune porte fermée. Avez-vous déjà reçu la visite, vous attendiez pas du monde qui vienne pour l'après-midi, et vous commencez à faire un ménage stratégique dans la maison? Il y a 8 pièces, on en nettoie 7, puis on met tout le reste dans 8e, on ferme la porte. Et on dit aux invités, va partout excepté là. Parce que s'ils ouvrent la porte, ça va tomber sur eux. Tout va s'effondrer sur eux. Savez-vous qu'il y en a qui est souvent devant le Seigneur, on vient, Seigneur, fais ton œuvre dans ma vie et touche-moi, guéris-moi, libère-moi. Mais il y a une porte contre le Seigneur, ça, là, tu ne peux pas y aller. Dites à quelqu'un près de vous, ouvre la porte au Seigneur. Dites ça à quelqu'un près de vous. Dites, laisse-la entrer. Et dites-lui, c'est lui qui va faire le ménage. Elle dit, Seigneur, elle a prié, j'ai été touché par cette expression. Nous voulons, je ne laisse aucune porte fermée. Entre, Seigneur, dis-nous quoi faire. Nous allons t'obéir, être bénis et bénir les autres. Seigneur, augmente notre foi. C'est notre prière ce matin dans toutes les sphères de nos vies. C'est pourquoi nous avons regardé aux différentes étapes de la vie d'Abraham. Nous avons vu ensemble la foi avec une révélation. La foi qui retrouve sa puissance. La foi qui rebâtit son autel. La foi qui représente Dieu et qui reprend de l'ennemi par la supplication. Et ce matin, j'aimerais regarder ensemble à Genèse, chapitre 14, les versets 17, avec ce que nous allons découvrir et nous emparer et vivre ensemble, la foi avec une récompense. Genèse, chapitre 14, et le verset 17 qui apparaissent à l'écran. « Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier. » Et ta récompense sera très grande. Dans cette série, Seigneur, augmente notre foi. Nous arrivons à ce moment où après une délivrance, ou après un grand combat, ou après que des prisonniers ont été arrachés des mains de l'ennemi, Abraham arrive dans une vallée où il rencontre deux rois. Il y a un roi de Sodome qui vient à lui. Le mot Sodome veut dire le lieu des flammes, le lieu du feu. Et le roi du feu, le roi des flammes vient à lui avec ses tentations, on va le lire dans quelques instants. Mais il y a aussi le roi de Salem qui lui apparaît, Jérusalem, le lieu de Dieu. Et lui arrive avec le pain et il arrive avec le vin. Et Abraham tendra ses mains devant lui. Et alors qu'il est face à face en ce moment hautement spirituel, et nous croyons que ce moment est ce que les théologiens appellent une christophanie ou une théophanie, où Jésus lui-même apparaît à différents moments dans l'Ancien Testament, présentant, annonçant, symbolisant, typifiant, annonçant à l'avance qu'il était pour venir. Et c'est lui qui arrive avec le pain et le vin. Et lorsqu'il se retrouve face à lui, Abraham lui remet la dîme de tout. Abraham va le bénir, va lui donner sa vie, son cœur, bâtir un autel à l'Éternel. Mais Abraham va aussi prendre 10% de tous ses biens et les offrir à Dieu dans un moment hautement spirituel. Et Dieu lui dit, « Parce que tu as fait cela, c'est moi qui vais être ton bouclier, c'est moi qui vais s'occuper de toi moi-même et ta récompense sera grande. » Et nous arrivons à ce moment, c'est quelques fois dans l'année, à 4 fois dans l'année où j'apporte la parole de Dieu sur le sujet de la générosité, des dîmes et des offrandes. Et c'est un message qui est partout dans les Écritures. Plus de la moitié des paraboles de Jésus enseignent sur l'intendance, la générosité, les finances ou les possessions matérielles. 18% des évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc. Ici, c'est à peu près 5% de nos messages annuels, 4 fois par an, où on apporte ce message, mais c'est extrêmement présent dans les Écritures. Vous ne pouvez pas enseigner la Bible. Vous ne pouvez pas aimer la Bible. Vous ne pouvez pas lire la Bible tout simplement sans voir ce message de manière omniprésente. C'est intéressant de voir, par exemple, que Jésus parle du sujet de l'intendance, de la générosité, des finances, des possessions matérielles, plus que du ciel et de l'enfer. C'est une indication de l'importance de Dieu que Dieu accorde à ce sujet. Juste l'étude des mots, par exemple, est extrêmement intéressante. Dans la Bible, nous découvrons que le mot « croire » est utilisé 272 fois. Le mot « prier » est utilisé 371 fois. Le mot « aimer » est utilisé 714 fois. Y a-t-il quelqu'un qui doute de l'importance des 3 premiers mots? Y a-t-il quelqu'un qui doute de l'importance de croire, de prier ou d'aimer? Y a-t-il quelqu'un qui est offensé lorsque Pasteur Claude prêche sur croire, prier ou aimer? Croire 272 fois, prier 371 fois, aimer 714 fois, mais le mot « donner » est utilisé 2162 fois. La parole de Dieu est un livre qui nous appelle à la générosité. Et là, il y a un grand nombre d'églises qui sont complètement ignorantes à ce sujet. Il y a un grand nombre de croyants qui sont des illettrés bibliques à ce sujet. Et il y a un grand nombre de pasteurs qui sont terrorisés d'enseigner à ce sujet. Il y a des chrétiens qui passent des années entières, des années, des décennies, ceux qui viennent des continents, de la francophonie, où tu peux être assis dans une église pendant 20 ans sans jamais entendre un message à ce sujet. J'étais amusé, j'ai souri et j'ai été touché par sa simplicité, son honnêteté. Lorsqu'un enseignant qui s'appelle Earl Pitts, qui est à Montréal récemment, et maintenant il donne des séminaires de 8 heures sur les finances, la générosité, tout ce que la Bible enseigne, l'économie de Dieu, comment Dieu désire nous enseigner là-dessus. Mais il a raconté que pendant 20 ans de pastorat, il n'était pas capable de se résoudre à enseigner là-dessus. Il trouvait ça tellement intimidant. Comment les gens vont réagir? Est-ce que les gens vont être offensés? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et il raconte que lorsqu'il était jeune pasteur, il avait fait un message là-dessus. Ça l'avait traumatisé des années et des années. Et un jour, il sentait vraiment, il y a une période de sa vie où il sentait vraiment qu'il devait enseigner le peuple là-dessus. Et il avait la peur de le faire. Puis il s'est ouvert à son épouse. Puis son épouse a commencé à lui dire, regarde comment c'est une bénédiction dans nos vies. Nous, on donne la dîme et Dieu nous bénit. Puis regarde comment, et tu prives les gens d'être béni. Tu devrais enseigner les gens aussi. Et il n'y a rien de pire pour un pasteur de se faire dire quoi prêcher par sa femme. C'est quelque chose qui est vraiment hallucinant. Et là, il raconte qu'un samedi soir, ils ont eu la discussion parce qu'ils avaient préparé un message là-dessus. Puis là, samedi soir, il changeait de bord. Il changeait son capot de bord. Je vais prêcher sur l'amour de Dieu à la place ou quelque chose comme ça. Puis sa femme, tu devrais l'enseigner. Tu ne devrais pas avoir peur. C'est pour la libération des gens. Puis là, je veux pas l'enseigner, c'est tout. Je veux plus t'entendre parler. Et il est parti et est allé manger dans un restaurant chinois. À la fin du repas, c'est Old Pitt qui a raconté ça à Montréal il y a quelques mois. À la fin du repas, il a ouvert les petits biscuits. Habituellement, ce n'est pas une grande source de sagesse. Mais ce soir-là, et moi, j'ai mangé quelques fois dans des restos chinois et j'ai jamais eu des messages comme lui. Je ne sais pas quelle sorte de restaurant c'était ou s'il y a un ange au ciel spécialisé dans les petits biscuits chinois. Je crois que personne d'autre n'a jamais eu un biscuit comme lui, mais le samedi, il y a eu la discussion avec sa femme. Il y a eu, pas le conflit, mais la discussion animée avec sa femme. Arrive au resto chinois, ça y a ça dans la tête, et voici, on va regarder juste le premier. Voici ce que le premier biscuit disait. Il faut avoir le courage de parler. Il faut communiquer selon vos convictions. Puis t'es assis là avec son petit biscuit, puis ça se peut pas, pardon. « Ouais, si Dieu parle par des biscuits chinois, franchement, c'est ridicule. » D'un coup, il s'est dit « Peut-être m'en chercher un autre. » Habituellement, si tu en ouvres assez, il va finir par en avoir un qui dit ce que tu vas entendre dans un resto chinois. Premier biscuit, il faut avoir le courage de parler, il faut communiquer selon ses convictions. Deuxième biscuit, voici le deuxième biscuit qu'il a reçu le même soir. « Il faut mettre de l'ordre dans la dimension financière de votre maison. » Apprenez à votre maison la sagesse dans les choses matérielles. Puis à chaque fois qu'il donne son séminaire, il sort les deux petits papiers. Combien croient qu'il faut que tu sois mal pris s'il faut que Dieu est obligé d'utiliser des petits biscuits pour te parler? Dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait un âne parce qu'il n'y avait plus personne qui voulait écouter. Alors Dieu utilise n'importe quoi pour vous parler. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Je ne sais pas si vous allez dire amen, j'espère que oui, mais je n'ai pas besoin de petits biscuits pour vous enseigner la parole de Dieu. Ce matin, vous allez entendre la parole de Dieu. Quelqu'un devrait dire amen. Lorsque nous enseignons le message sur la dîme, sachez que nous pratiquons passionnément ce que nous proclamons publiquement. C'est très important que vous sachiez qu'en tant qu'Église, des milliers d'Églises prêchent la dîme aux membres, alors qu'en tant qu'Église, ils ne donnent pas leur dîme eux-mêmes. Des mouvements entiers d'Églises exigent une dîme qu'ils ne la donnent pas eux-mêmes. Jamais je me placerai dans une position où j'appellerai le peuple à un engagement vers la dîme si en tant qu'Église, nous ne donnons pas la dîme nous-mêmes. L'Église Nouvelle Vie, année après année, à travers tout ce qu'on a fait, toutes nos constructions, toutes nos épreuves, n'avons jamais cessé de donner plus que 10 % certaines années. Je pense que cette année, ça va être 14 ou 16 % de tout ce qui entre ici est envoyé à l'extérieur, à des ministères partout. Et nous croyons que vous êtes bénis d'être et que vous désirez être dans une Église qui non seulement enseigne la Bible et enseigne la dîme, mais la pratique aussi. Vous pouvez vous dire amen. Nous pratiquons passionnément ce que nous proclamons publiquement. Le texte dit « Abraham donna la dîme de tout ». Vous pouvez ajouter « L'Église Nouvelle Vie donne la dîme de tout ». Et vous pouvez aussi ajouter « Claude et Chantal donne la dîme de tout ». Je veux que vous sachiez, c'est important, beaucoup de nouveaux qui sont ici, que nous ne considérions pas un instant vous enseigner un principe qui n'est pas dans nos vies à nous. Dans les 19 ans de mariage que j'ai avec mon épouse, lorsque nous sommes mariés, on n'avait rien. Ma femme avait une carrière, elle avait un travail, elle avait une super bonne job, elle avait une voiture. Moi, j'avais un 1,5 que je ne lui ai jamais montré une fois. J'avais peur de la perdre si je lui montrais où est-ce que je restais. Je n'ai jamais montré mon 1,5. C'était dans un sous-sol d'une maison. J'étais un évangéliste au Québec. Alors, j'avais un 1,5. Un 1,5, c'est pratique, vous savez. C'était une seule pièce. Alors, il y avait le lit, il y avait le frigidaire, il y avait la toilette. Tout était à portée de la main. Tu peux tout faire assis dans la même chaise. J'avais un gars qui dormait sur le sofa avec moi, qui voyageait avec moi en plus, comme évangéliste, qui dormait là. On était deux là-dedans. J'avais mon 1,5. Et lorsque je me suis marié, ma femme avait une carrière. Elle avait toutes sortes de choses. Moi, j'avais des bibles et un sourire. This is what I got. Bibles and a smile. Et on a pris un engagement devant Dieu que des centaines d'entre vous avaient pris. Et j'aimerais vous dire que 19 ans plus tard, il n'y a pas une semaine, quelles que soient les épreuves qu'on a pu traverser, la première chose toujours dans nos vies, la première chose que nous mettons à part, le premier engagement financier que nous avons est toujours de donner, d'honorer le Seigneur avec nos voici 10 % de nos revenus, Seigneur, et les offrandes par-dessus. J'aimerais vous dire, par la grâce de Dieu, et ce n'est pas par mon temps, parce qu'il y a des gens qui sont ici, qui font tellement plus de sous, qui peuvent donner tellement plus que nous, mais nous voulons être à l'Église Nouvelle Vie. Nous voudrions être à l'Église, pas par compétition, simplement par modèle devant Dieu. Nous voudrions, Chantal et moi, être ceux qui donnent le plus dans cette Église. Par la grâce de Dieu, c'est au-delà, en 2005, c'est au-delà de 20 % de tous nos revenus qu'on donne en tant que famille, en tant que couple. Et Dieu nous a toujours bénis, Dieu nous a toujours comblés des travails, des emplois, maisons, la santé et de toutes sortes de façons. Nous voulons que vous sachiez que nous pratiquons dans le secret, en privé, ce que nous proclamons publiquement. Est-ce que vous pouvez dire amen? La raison pour laquelle il y a une autorité, la raison pour laquelle il y a une audace, la raison pour laquelle il y a une grande joie même pour moi d'apporter ce message, c'est que c'est une réalité dans ma propre vie. J'en ai goûté les bénédictions depuis des années. La foi avec une récompense. Abraham lui donna la dîme de tout. Le Seigneur lui dit, ta récompense sera grande. Et Abraham continua à marcher avec Dieu et il avançait étape par étape. Et j'aimerais vous partager trois étapes. C'est des choses que chaque chrétien doit vivre. Lorsque nous arrivons au Seigneur comme vous, il y a des années, certains d'entre nous, ça fait des années, d'autres plus récemment, on est venu au Seigneur, on n'avait jamais entendu la parole de Dieu à ce sujet. Et il y a des étapes dans la vie de quelqu'un qui va prendre la décision d'obéir à Dieu dans le principe des dîmes et des offrandes. Des étapes bien, bien présentes dans le livre d'Abraham, dans la vie d'Abraham, dans la parole de Dieu, mais aussi bien présentes dans nos expériences communes. J'aimerais regarder trois étapes pour la récompense avec vous ce matin. Le commencement et cette foi pour la récompense, c'est trois étapes. Le commencement et la connaissance de cette foi, le combat de cette foi et la confiance pour cette foi. Le commencement et la connaissance de cette foi. La parole de Dieu nous dit, Abraham donna la dîme de tout. Et Romains nous dit, car la promesse est pour nous tous. car Dieu est notre Père à tous. Donc, c'est par la foi devant Dieu que la promesse est accomplie ou est garantie à tous ceux qui ont la foi d'Abraham. Abraham a donné la dîme de tout et Dieu lui a dit, « Parce que tu as fait cela, tu ne manqueras de rien. Je vais être ta récompense. Je vais être ton bouclier. Je vais m'occuper de toi moi-même. C'est moi qui vais pourvoir à toi. » Et l'Épître aux Romains nous dit, « La promesse qui était sur lui est pour vous si vous marchez dans la voie d'Abraham. » Lorsque vous entendez le mot « dîme » dans la parole de Dieu, c'est un mot dans l'Ancien Testament, « maaser » dans l'hébreu, dans le Nouveau Testament, « décaté », dans le grec, qui veut simplement dire « un dixième de ». Le dixième de. Et c'est l'appel de la parole de Dieu à ce que nous donnions, nous mettions de côté pour Dieu tous nos revenus, 10% de tous nos revenus, salaire, bonus, et de le donner à l'Église locale qui, elle, soutient l'œuvre locale, l'œuvre provinciale, dans notre cas, et l'œuvre mondiale. Cet enseignement-là de prendre 10% et de l'offrir à Dieu et pratiquer à travers, et enseigner à travers toute la Bible, pratiqué par le Père de la foi dans Genèse 14 et par Abraham, donné par Dieu comme un commandement à Moïse, rappelé à chaque génération et renouvelé à chaque moment de repentance de la nation. Il y a toute une série de versets qui apparaissent à l'écran qui vont être disponibles dans les notes si vous les désirez. Mais à chaque fois que le peuple allait dans l'idolâtrie ou allait vers les nations étrangères et vivait toute la douleur de s'être éloigné de Dieu et qu'à l'appel de l'amour de Dieu, à chaque fois que le peuple revenait à Dieu, il y avait toujours 5 choses qui étaient restaurées. 5 choses qu'ils avaient perdues qui étaient restaurées. Charles Wesley les appelait les 5 doigts de la main du réveil. Et Wesley enseignait que tu ne peux pas avoir, si tu veux savoir si quelqu'un vit un vrai réveil spirituel, si une église vit un réveil biblique, si un mouvement d'église vit un réveil biblique, ces 5 doigts sont restaurés. À chaque fois que le peuple revenait et disait, Seigneur, on veut revenir à toi, Dieu disait, voici ce qui doit être restauré. Il restaurait la pureté, j'abandonnais les idoles, restaurait la parole de Dieu, restaurait la prière, restaurait la présence de Dieu, la louange, l'adoration, les chants, les lévites, et restaurait le principe, la pureté, la parole, la prière, la présence, et restaurait le principe, le 5e doigt de la main du réveil, restaurait le principe de la dîme. Et le peuple recommençait à donner. Et personne maintenant, mais personne en 2006 ne va essayer de bâtir une argumentation pour dire « Non, la prière, ça, c'était sous la loi. Non, la parole, ça, c'était sous la loi. Non, la louange, la présence, ça, c'était sous la loi. La pureté, c'était sous la loi. On n'est plus sous la pureté, la prière ou la présence, on est sous la grâce. » Non, les 5 doigts de la main du réveil sont encore ce que Dieu appelle chaque être humain qui vient à Dieu et veut marcher avec lui, appelle à obéir aujourd'hui. Ce principe de la dîme est rappelé par les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Agée, Amos et Malachie. La dîme et les offrandes sont enseignées par le Père de la foi, Abraham, par l'homme selon le cœur de Dieu, David, l'homme le plus sage de l'histoire, Salomon, et par l'apôtre par excellence du Nouveau Testament, l'apôtre Paul. Et bien sûr, enseigné par Jésus-Christ lui-même. Écoutez Jésus lui-même. Lorsque pour chaque personne qui dirait « Moi, je ne suis pas sous la loi », la dîme était avant la loi, pendant la loi, après la loi, jusqu'à aujourd'hui. Et Jésus a dit à propos de la loi, « Ne croyez pas, Matthieu 5, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Les gens qui disent « Non, moi, je ne suis pas sous la loi », c'est jamais parce qu'ils veulent donner plus à Dieu. Avez-vous remarqué que jamais, moi, après, et vous pouvez aligner ici 50 pasteurs avec moi sur l'estrade, ça n'a jamais arrivé au fil des années, en 20 ans, quelqu'un vient me voir et dit « Non, moi, je ne suis pas d'accord avec cet enseignement-là de la dîme. Ça, c'était dans l'Ancien Testament, l'affaire de 10 %. Je ne suis pas d'accord avec ça. On est sous la grâce. J'exige que vous enseigniez qu'on doit donner au moins 20 %. » Non, c'est toujours un bargain à la baisse. C'est toujours essayer de négocier pour donner moins au Seigneur. Jésus dit la loi, je ne suis pas venu l'abolir, je suis venu l'accomplir. Il dit, il a spécifiquement souligné la dîme alors qu'il enseignait sur ce principe. Il a dit, vous payez, il dit aux pharisiens, vous payez la dîme, 10 % de l'amande, de la nette, du cumin. Il voulait, vous donnez 10 % de tout, de toute chose, jusqu'au moindre détail, jusqu'au moindre fragment. et vous laissez les choses essentielles de la loi, le droit, la miséricorde, la fidélité. C'est ça, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans laisser de côté le reste. C'est assez hallucinant de voir des gens, des chrétiens, prendre un verset comme ça pour dire, Jésus a dit, c'est pas important la dîme, ce qui est important, c'est le droit, la miséricorde, la fidélité. On disait, ce que Jésus enseignait dans la pensée christologique, ce que Jésus enseignait, le droit, la miséricorde, la fidélité, sans laisser de côté le reste. L'interprétation moderne de « c'est ça qui est important au lieu de la dîme » est aussi ridicule que d'essayer de prétendre que non, la miséricorde est importante, mais on peut ignorer « tu ne tueras pas ». Le droit est important, mais on peut ignorer « sous la grâce, tu ne mentiras pas ». La fidélité est importante, mais on peut ignorer « tu ne voleras pas ». Jésus a dit non, voici, vous payez la dîme surtout, vous payez la dîme, vous le faites fidèlement, mais il y a des choses majeures de la parole de Dieu que vous ignorez. Il faut que vous embrassiez l'ensemble de la parole de Dieu sans ignorer le reste. Risque amen. Jésus l'a enseigné lui-même, du tabernacle de Moïse à la tente de David, au temple de Salomon, à la triomphante église des Actes des Apôtres, à toi, aujourd'hui, en 2006, ici, 26 février 2006, à l'église Nouvelle Vie, marquez ce moment. Du 26 février 2006 à 11h07, parce que vous allez vous présenter devant Dieu un jour, et moi j'aurai rencontré ma responsabilité de vous avoir enseigné cet enseignement biblique. Et vous aurez à répondre et dire, Seigneur, je l'ai reçu ce matin-là, et qu'est-ce que j'ai fait avec l'enseignement? La mesure de notre bénédiction dans tous les domaines de nos vies, la mesure de notre bénédiction sera directement proportionnel et conditionnel à notre mesure d'obéissance et de persévérance dans la mise en pratique de ce qui est enseigné dans la parole de Dieu. Si j'enseignerais sur n'importe quel autre sujet ce matin, la louange, la prière, le pardon, la grâce, et que j'avais dit que la mesure de notre bénédiction serait directement proportionnelle à notre obéissance à la parole, j'aurais eu un tonnerre d'amen. Et là, j'ai juste eu ma tante qui a dit amen en arrière. Je vais le répéter et quelqu'un dira « Amen ». La mesure de la bénédiction sur nos vies sera directement proportionnelle à notre obéissance à l'enseignement de la parole. Je le dirai de cette façon-ci. L'obéissance détermine l'onction. La persévérance détermine la puissance. Dans tous les domaines de la parole de Dieu, c'est notre persévérance dans des principes qui va déterminer la puissance que nous allons avoir sur nos vies. Le lieu secret détermine le surnaturel. Très souvent, la mesure d'onction qu'on va avoir sur nos vies est mesurée devant Dieu et va être rendue possible ou annulée devant Dieu par des choses qui ne sont pas publiques, par des choses qu'on fait dans le lieu secret, par des choses qu'on fait lorsque personne ne nous regarde, par le lieu de prière, par le lieu de la parole, par le lieu de la pureté, par le lieu du pardon, par le lieu où je prends mon chéquier et que j'honore Dieu, dans le lieu secret que personne ne me voit et permettant ainsi au ciel de s'ouvrir sur ma vie. Je dirais de cette façon, nos décisions déterminent nos destinées. Alors, le commencement et la connaissance de cette foi pour la récompense en trois pensées très simples ce matin. Il y a un commencement, une connaissance que vous avez besoin d'avoir. Trois pensées très simples. Il faut reconnaître Dieu comme étant la source de nos finances. Abraham a dit, répondit, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham reconnaissait que tout ce qu'il avait lui venait de Dieu. Tout ce qu'il a. David a souligné la même pensée lorsqu'il a dit dans 1 Chronique, dans mon attachement pour la maison de Dieu, je donne à sa maison de l'or et de l'argent que je possède à moi. Outre tout ce que j'avais préparé, au-delà de mes dîmes, je donne des offrandes pour la maison du sanctuaire. Et maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, nous te célébrons. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Dans le monde moderne, dans le monde chrétien moderne, il y a une espèce de partenariat pernicieux. Des gens parlent d'une façon, des gens vivent leur vie comme si c'était eux leur source. Mais ils vont toujours mettre un petit peu de Dieu dedans. Ils vont dire des choses du genre, avec le Seigneur, puis Dieu est avec moi dans mes affaires. Puis c'est une pensée vraiment de, moi je fais ma vie, puis quand j'ai besoin d'aide, je demande à Dieu. Mais c'est ma job, mon travail, mon budget, mes affaires. Puis j'aimerais vous dire que la pensée biblique, c'est que vous le réalisiez ou non, tout ce que vous êtes et que vous avez, vient de Dieu. Des fois, on est comme la puce qui était sur un éléphant. Une petite puce sur un éléphant. Pendant longtemps, elle ne réalisait même pas qu'elle était sur un éléphant. Puis à un moment donné, elle a réalisé qu'elle était sur un éléphant. qui la portait. La petite puce est sur le dos de l'éléphant. Et l'éléphant marche, puis il détruit tout dans la forêt. Puis la petite puce est sur le dos de l'éléphant. Puis elle dit, regarde tout ce qu'on fait ensemble. Regarde-moi puis lui, qu'est-ce qu'on fait. J'aimerais vous dire, je ne veux pas vous offenser, mais vous êtes une puce sur le dos d'un éléphant. J'aimerais vous dire que je dis, moi, avec Dieu, Seigneur, même les offrandes que je te donne sont simplement, je te donne ce que toi, déjà, tu m'as donné. C'est toi qui es ma source. Quel que soit votre employeur, je vais faire quelque chose de radical ce matin, je veux essayer de convaincre plus de 2000, 3000 personnes de changer de job. Que demain matin, vous allez arriver et dire, dans vos cœurs, réalisez, je ne travaille plus pour cet employeur. Que vous pourriez même dire à votre patron, je viens vous annoncer que je change d'employeur. Je travaille en fait pour Tout-Puissant et Fils. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui travaille? Voulez-vous dire à quelqu'un près de vous qui n'a pas déjeuné, il parle du Seigneur? Dites ça à quelqu'un. Tout-Puissant. Je travaille en fait pour Tout-Puissant et Fils. C'est lui qui est ma source. C'est lui qui me donne le souffle, la santé, les capacités, le talent, patron, pour être un employé modèle, pour être un employé qui arrive toujours à l'heure, dites amen n'importe quand ça vous tente. Un employé qui travaille plus fort que les autres, un employé qui est fidèle, un employé qui est droit, et Tout-Puissant et Fils m'a délégué, m'a permis de venir vous donner quelques heures à chaque semaine par lesquelles vous allez me rémunérer, mais en tout temps, je sais que c'est lui qui est ma source. Quelqu'un devrait dire amen. Si vous travaillez pour Tout-Puissant et Fils, applaudissez-le ce matin. Le commencement est la connaissance de la foi qui honore le Seigneur avec la dîme. Il faut reconnaître Dieu comme notre source. Il faut semer et sanctifier nos finances. Il faut semer et sanctifier. Deux fermiers sont au bord de la faillite. Les deux ont des graves problèmes financiers alors qu'ils arrivent au printemps. Ils ont chacun un sac de semences petit dans les mains. Et un dit, je suis ben trop pauvre pour semer. Je ne peux pas laisser aller ces semences-là. Il faut que je mange mes semences. Et l'autre dit, non, je suis tellement dans le besoin qu'il faut absolument, si je veux avoir une chance, que je sème. L'apôtre Paul, alors qu'il enseigne sur les offrandes, sur les finances, sur la générosité, dit, semez. Celui qui va semer avec générosité va récolter avec générosité. Je vous dirais, Dieu n'a pas besoin de votre dîme. Vous avez besoin de donner votre dîme. Car alors que vous donnez le 10 % vous ouvrez les écluses des cieux qui permet à Dieu de multiplier votre vie. Ceux qui l'ont vécu, appuyez-moi pendant un instant. Ceux qui le pratiquent et le vivent, dites amen. Je vais donner une clé importante aussi. Il faut semer et sanctifier nos finances. Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit, prends pour toi les biens, les trésors vite acquis. Mais Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien du tout de ce qui est à toi, pas même un fil. Et tu ne pourras jamais dire, j'ai enrichi Abraham. » Après ces événements, l'Éternel dit à Abraham, « N'aie pas peur, je serai moi-même ton bouclier, ta récompense sera grande. » J'aimerais dire ce matin, c'est très important pour des chrétiens qui veulent s'en sortir, qui veulent prospérer. Vous avez besoin de reconnaître Dieu comme votre source, vous avez besoin de semer. Mais vous avez besoin aussi de sanctifier vos finances. Abraham se retrouve dans la vallée et le roi du feu, le roi des flammes, le roi de Sodome, le roi de ce qui est cher, de ce qui est mal, veut l'enrichir rapidement, veut lui donner un bien rapidement acquis. Et Abraham dit, non, moi je ne toucherai même pas un fil de ce qui vient de toi. Je ne veux même pas toucher un fil de ce qui t'appartient. Parce que personne, tu ne pourras jamais dire, ma bénédiction, je n'ai pas besoin de toi, c'est Dieu qui va s'occuper de moi. Et si je veux avoir la bénédiction de Dieu sur ma vie, je dois sanctifier mes finances. Vous ne pouvez pas être à l'église, servir Dieu, espérer sa bénédiction, faire des projets, alors que vous êtes continuellement moitié-moitié dans des choses qui sont illégales. Alors que vous achetez du stock volé, alors que vous ne faites pas vos rapports d'impôts, alors que vous travaillez en dessous de la table, alors que vous êtes continuellement à prendre, à chercher, à prendre de Sodome et à prendre du Seigneur. Il y a une décision qui doit être prise dans la sanctification de vos vies. Par la grâce de Dieu, je vais travailler honnêtement, je vais payer mes impôts honnêtement. Dites amen n'importe quand ça vous tente, c'est extraordinaire cette prédication ce matin. Je vais payer mes impôts honnêtement, je vais travailler honnêtement, je ne toucherai. Il y a quelque chose qui doit monter en toi qui dit, pas un fil. Il y a plein de gens qui depuis des années ne s'en sortent jamais, ne s'en sortent jamais, parce qu'un petit peu à Dieu, un petit peu ici, un petit peu là, mais garde toujours une porte ouverte à des choses qui ne sont pas légales, des choses qui sont illicites. Il y a des maris qui le font, il y a des femmes qui le font, il y a des maris qui le font, et il y a des femmes qui font leur innocente. Parce qu'ils veulent garder le flot qui arrive. Et pendant tout ce temps-là, vous vous privez de la vraie bénédiction de Dieu. Il y a quelque chose de surnaturel qui arrive lorsque tu traces une ligne. Tu dis, ça, c'était avant. Et maintenant, je dis à tout ça, pas un fil. C'est Dieu qui va s'occuper de moi. Semez. Considérez Dieu comme votre source. Semez et sanctifiez nos finances. Et il faut servir Dieu avec le sacrifice de nos finances. Pour Abraham, c'est très, très spirituel. Il y a le roi de Sodome, qui représente ce qui est satanique, ce qui est de la chair, ce qui est de l'ennemi, ce qui est des ténèbres. Il y a le roi de Salem, qui représente Christ, avec le pain et le vin qui vient. Puis il y a Abraham qui donne la dîme en levant la main devant le Dieu Très-Haut. Très, très, très spirituel. Ce n'est pas dans la pensée biblique de considérer avoir toute cette vie spirituelle qui n'inclut pas la dimension de la dîme. Et ce n'est pas dans la pensée biblique que vous soyez là et que vous considériez, lorsque vous faites votre chèque, que vous faites quelque chose de matériel. Non, non, non. Lorsque vous prenez 10 % de votre temps, de votre vie, de votre travail, et avec foi, vous l'offrez à l'œuvre de Dieu et vous l'offrez à Dieu, vous êtes en train de faire quelque chose de très spirituel devant le roi de Sodome. Vous êtes en train de dire à l'ennemi, je mets ma confiance en Dieu. Vous êtes en train de dire à Dieu, je crois en tes promesses et c'est toi qui vas être ma récompense. Très, très, très spirituel. Il y a un principe extraordinaire, mais qui est ignoré par des millions de chrétiens, qui est enseigné par Jésus. Jésus a dit, celui qui est fidèle dans les choses qui sont moindres, il est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste ou qui est infidèle dans les petites, dans les moindres choses, le sera aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses terrestres, matérielles, qui vous confiera les richesses véritables ou surnaturelles, spirituelles, éternelles? Jésus est en train de dire que la désobéissance, si tu n'es pas fidèle dans les choses qui sont matérielles, il y a toute une portion spirituelle qui va te manquer, que tu vas perdre. La désobéissance à ce principe nous coupe, nous vole, nous fait perdre le ciel. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont sous le radar. Oui, parce que là, tous les ans, je t'entends là-dessus, mais moi, je ne donne pas ma dîme, puis je suis correct financièrement. Je m'en tire pas pire. Jésus dit, ce n'est pas seulement une bénédiction financière que tu perds si tu n'honores pas le Seigneur avec tes dîmes. Jésus dit, il y a une multitude de chrétiens qui, parce qu'ils ne sont pas fidèles avec les choses qui sont matérielles, il y a toute une série de richesses spirituelles qu'ils ne découvrent jamais. Parce que si tu ne peux pas être fidèle dans les choses qui sont terrestres, qui sont passagères, qui sont éphémères, comment Dieu? Il le dit même de cette façon-là, puis je frémis à chaque fois que je le lis. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui appartient à un autre, qui vous donnera ce qui est à vous? Si tu n'as pas été fidèle dans ce qui appartient à Dieu, la dîme, tu ne pourras pas recevoir ce qui t'appartenait à toi, ta destinée, ton appel, ton onction, ce que Dieu voulait faire en toi et à travers toi. Risque, amen. Nul ne servira, nul ne peut servir de maca. Ou il haïra l'un, ou il aimera l'autre. Il s'attachera à l'un, méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. La dîme, par la dîme, nous servons le Seigneur. Nous le servons avec le sacrifice que nous lui offrons. Jésus l'enseigne de cette façon. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, car tu ne peux pas servir deux maîtres. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amasse-toi pas des trésors sur la terre, amasse-toi des trésors dans les cieux. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire, lorsqu'on meurt, tu ne peux pas l'amener avec toi? Je peux vous dire ceci? Tu ne peux pas l'amener avec toi, mais tu peux l'envoyer à l'avance. Pas l'amener avec toi. Deux chrétiens de nouvelle vie arrivent au ciel. Il y en a un qui rentre, puis une petite cabane. L'autre, une espèce de... Puis l'ange demande à l'ange, « Comment ça se fait que j'ai juste cette petite cabane-là? » Il dit, « Tout ce qu'on a pu faire avec ce que tu nous as envoyé. » Vous n'êtes pas en train de vous acheter une cabane au ciel, mais comprenez ceci. Jésus a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, amasse-toi des trésors dans les cieux. Je ne peux pas l'amener avec moi, mais je peux en envoyer le plus possible à l'avance pour l'avancement du royaume de Dieu. Et pour moi, la maison au ciel, le trésor au ciel, vous savez bien que lorsqu'on va être au ciel, on va être des esprits, ça ne sera pas une question, ouh, j'ai donc un beau patio. Regardez ma céramique, ma piscine creusée, ça ne sera pas une question de ça. Dites, j'espère que vous n'êtes pas déçus. Quoi? Comment ça? Je crois que nos trésors au ciel, ça va être toutes sortes de choses dans sa présence, mais ça va être aussi les trésors au ciel. Ça va être des âmes qui sont venues au Seigneur, qui vont venir te dire « Merci, tu as donné ta dîme et à travers ton Église, je suis venu à Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. » Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La fidélité avec nos dîmes rapproche nos cœurs devant Dieu. Jésus dit quelque chose de surnaturel qui prend place. Lorsque tu donnes ta dîme, ton cœur se rapproche de ce à quoi tu donnes. Ce n'est pas l'Église, c'est mon Église. Ce n'est pas les missionnaires, c'est mon missionnaire. Je me rapproche de ce à quoi je donne. Lorsque je sème dans quelque chose, mon cœur s'y rapproche, dans les choses séculières et dans les choses spirituelles. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire? Combien d'entre vous avez déjà eu une petite voiture? Ça peut être vos premières voitures, peut-être vous en avez une en ce moment. Soyez juste contents si vous avez une auto. Mais disons, combien d'entre vous avez déjà eu vraiment une vraie bagnole, un vrai bazou? Levez vos mains. Je ne sais pas comment ils disent en France, il y a beaucoup d'Européens ici, une caisse. Je ne sais pas comment vous dites bagnole ou bazou, mais bon. Vous savez, moi, j'ai déjà eu ma première voiture, parce que moi qui est parti avec moi, cette auto-là que l'Église nous avait aidé à avoir pour partir vers la cage biblique. C'était un gros Pontiac Le Mans. C'était comme un bateau. Il était blanc et brun. Un beau blanc, mais il y avait de la rouille un peu partout, ça faisait un bain. Je me souviens une fois, j'étais assis dans le temps qu'il y avait des postes de péage sur la 15. J'étais assis, je me préparais pour payer mon 25 sous. D'un coup, je regarde dans le miroir, puis je vois un auto qui s'en vient, il s'en vient. Tu sais quand il s'en vient de plus en plus gros dans le miroir? Puis je vous le dis, je n'ai même pas eu un moment de juste mis le pied sous le frein. J'ai attendu, puis bang, il me rentrait dedans. Tout arraché, le bumper, tu sais. J'ai sorti de l'âme grattant, j'étais pas... Cette auto-là, elle ne valait rien, ne me coûtait rien, ne m'avait rien coûté. Il y avait déjà 7 pocs dessus, ça faisait juste équilibrer les affaires des deux bords. Il y en a d'autres qui sont ici, qui ont des voitures, qui vous coûtent cher, puis il y a juste l'ombre d'une scratch, puis vous faites 3 apoplexies. Est-ce que vous me suivez? Là où tu mets ton trésor, ton cœur s'y attache. Il y a toute une génération de chrétiens qui restent spectateurs, qui ont hâte que je finisse ce matin. Écoutez-moi. Puis qui ne goûteront jamais au sentiment d'appartenance, de participation, de coéquipier, de co-ouvrier, de dire « c'est pas l'Église, c'est mon Église, c'est pas les missionnaires, c'est pas l'Action Nouvelle Vie, c'est mon action, c'est mes missionnaires, moi je suis là-dedans, je donne et mon cœur se rapproche de l'œuvre de Dieu. » Quelqu'un devrait dire « Amen ». Dîme et offrande nous rapproche là où est ton trésor, là aussi dans ton cœur. Mais dis, mon frère, nous aussi, non seulement rapproche nos cœurs devant Dieu, mais là où est ton trésor, là aussi, selon ton cœur. Ça, c'est Jésus qui l'enseigne, et toute la Bible l'enseigne. Non seulement que de là où tu donnes tes dîmes et offrandes, ça te rapproche de ce à quoi tu donnes, mais ça te révèle aussi. C'est là où est ton trésor, en voyant où tu mets ton trésor, qu'on va savoir où est ton cœur. La révélation de notre cœur n'est pas dans nos déclarations, n'est pas dans un demain. Un désir pour demain, un jour, lorsque j'aurai de l'argent, je donnerai à Dieu. Si j'avais, je donnerais. N'est pas dans une déclaration. Jésus dit, là où tu donnes, ce que tu donnes avec ce que tu as aujourd'hui, révèle véritablement où est ton cœur. Là où est vraiment ton cœur, ce que tu sers vraiment. Tu ne peux pas servir demain, ce que tu sers vraiment. Le Corinthien le disait de cette façon, l'apôtre Paul le disait d'une manière très, très directe, comme l'apôtre Paul le faisait. Il dit « La bonne volonté, quand elle existe, 2 Corinthiens 8, 12, la bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. » L'apôtre Paul dit « C'est pas ce que tu penses que tu auras un jour, puis lorsque je serai plus riche, puis lorsque j'arrive, puis lorsque je serai établi. Ce que tu as aujourd'hui, que tu sois sur l'aide sociale ou que tu sois un capitaine d'industrie, avec ce que tu as aujourd'hui, l'appel de Dieu te parvient. Est-ce que tu vas m'offrir? Est-ce que tu vas me faire confiance? Est-ce que tu vas mettre ta confiance en moi et m'offrir les dîmes et les offrandes? Avec ce que tu as aujourd'hui. » L'apôtre Paul le dit même de cette façon. Jésus a dit, c'est comme ça que le ciel sait ce qu'il y a vraiment dans ton cœur. Et c'est pour ça, l'apôtre Paul le dit dans le même chapitre, il dit, donnez donc, il appelle les Corinthiens à faire une offrande, donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour. Il ne faudra pas dire le véritable amour pour Dieu, pour son œuvre, pour les choses spirituelles, est révélé de toutes sortes de façons, mais il est révélé aussi. Là où tu mets ton trésor, là aussi, c'est là qu'on trouve vraiment où est ton cœur. Et c'est très, je ne veux pas essayer de vous dorer la pilule ce matin et de prétendre qu'il n'y a pas de sacrifice. Abraham est connu pour celui qui a affaire. Il faut servir Dieu. J'ai reconnu Dieu comme ma source. Je vais semer et je vais sanctifier mes finances, mais aussi je sers le Seigneur avec le sacrifice. C'est un sacrifice de prendre 10% de ce que nous avons ou plus et de le donner à Dieu. Je pourrais faire autre chose avec cet argent-là. Il y a un sacrifice qui est fait, qui est offert pour l'œuvre de Dieu. Et en 2006, ce n'est pas une pensée qui est propre à l'Église. Toujours des chrétiens qui sont mal à l'aise parce que, oh, y a que 10% de sacrifice donné à Dieu. Bien-aimé, tout le monde sacrifie pour quelque chose. Tout le monde donne et sacrifie des montants, bien souvent, bien plus que des dîmes. Combien de gens sacrifient? Combien les gens sacrifient-ils? Des centaines de milliers de personnes au Québec. Combien les gens sacrifient-ils en boisson, en party ou en cigarette à chaque année? Est-ce que vous savez qu'à presque 10 $ par paquet, qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui payent bien plus qu'une dîme juste en cigarette? Qui le sacrifient parce que c'est ce qu'ils veulent. Combien de gens sacrifient pour des gadgets, objets de luxe, gâteries de tout genre? Combien de gens sacrifient en voyage, en vacances à chaque année? Et il n'y a rien de mal à avoir vacances et voyages. Mais des gens à travers le ramassent, mettent de côté, sacrifient pour ça. Combien de gens sacrifient-ils en abonnement, location de films, de CD, de jeux électroniques, Vidéotron, Hélico, films, Internet haute vitesse? Rien de mal à avoir ça. Rien de mal à mettre des sous à ça. Mais des gens partout sacrifient pour l'avoir, ils veulent l'avoir. Combien de gens sacrifient-ils en vêtements, chaussures, coiffure, esthétique, sport, restaurant, bière et vin, billets de spectacle? Combien allez-vous sacrifier pour le Seigneur, son Église, son œuvre et ce qui est éternel? Parce que ne vous trompez pas, lorsque vous donnez une dîme, vous êtes en train de servir Dieu et vous permettez le service de Dieu. Lorsque vous donnez votre dîme à l'Église Nouvelle Vie, vous donnez aux plus démunis de la Rive-Sud parce que des centaines de milliers de dollars vont à chaque année à travers vos dîmes pour soutenir Action Nouvelle Vie. Vous donnez pour les ministères, aux enfants, aux jeunes, aux hommes, aux femmes, aux couples, aux célibataires, aux personnes âgées. Vous donnez à des personnes captives, désespérées, liées, qui ont besoin de délivrance. Si vous donnez votre dîme à l'Église Nouvelle Vie cette semaine, savez-vous ce que vous avez fait? Vous n'avez pas réalisé. Savez-vous ce que vous avez fait cette semaine? Cette semaine, vous avez nourri des enfants à Haïti. Vous avez servi Dieu en Haïti à travers les missionnaires que vous avez soutenus par vos dîmes. Cette semaine, vous avez annoncé l'Évangile en France. Cette semaine, vous avez aidé des toxicomanes à se sortir à travers des centres que nous soutenons par vos dîmes. Cette semaine, dites à quelqu'un à côté de vous, j'ai été occupé cette semaine. Dites ça à la personne près de vous. Cette semaine, vous avez évangélisé des milliers de personnes. Pasteur Stéphane Kiri est un missionnaire que nous soutenons, un évangéliste que nous soutenons, ainsi que plusieurs autres. En ce moment, tu es en train de faire l'œuvre. Des âmes sont sauvées. Un autre est en train de nourrir des enfants. Un autre est en train d'aider les toxicomanes. Vous servez Dieu par le sacrifice de vos dîmes. Vous servez le Seigneur. Vous donnez à une multitude de ministères intègres et solides qui accomplissent une œuvre extraordinaire. Vous donnez à des églises qui grandissent partout au Québec. Vous donnez à des évangélistes, des organismes chrétiens, des missionnaires expérimentés et passionnés qui ont des ministères qui portent des fruits éternels. Vous donnez et vous servez Dieu par le sacrifice de vos finances. Vous donnez à des missionnaires comme Michel et Louis Charbonneau. C'est juste survenu, on est parti Chantal et moi 3 jours à l'extérieur cette semaine. Lorsqu'on est revenu, j'avais une pile de courriels, dont un de Michel Charbonneau qui fait un ministère auprès de milliers d'enfants d'Haïti que vous soutenez, que nous soutenons par vos dîmes, qui nous écrit parce qu'au mois de janvier, à travers vos dîmes, on n'a pas envoyé un pasteur de l'Église, parmi en plus du soutien mensuel qui lui permet de faire son ministère, on lui a envoyé en janvier un ministère de l'Église, pasteur Philippe Chartres, qui est allé faire un ministère avec d'évangélisation et un ministère pour des milliers de jeunes et d'enfants. Et Michel nous écrit cette semaine, au début du mois, il a écrit à tous les pasteurs du Québec, au début du mois de janvier, le pasteur Philippe Chartres de l'Église Nouvelle Vie a tenu dans notre assemblée une semaine de prédication intense. Ça faisait presque un an que nous n'avions pas eu de prédicateur étranger. Il y a eu un mouvement merveilleux qui s'est soldé par une effusion du Saint-Esprit. Cela s'était préparé tout au long de la semaine, mais un dimanche matin et mardi après-midi, les jeunes pleuraient, tombaient sur leurs genoux, tandis que d'autres étaient baptisés du Saint-Esprit. Nous rendons gloire au Seigneur pour l'Église Nouvelle Vie qui nous a envoyé ce missionnaire qui a fait une œuvre divine. C'est vous qui avez fait ça. C'est vos dîmes. Vous avez servi Dieu en Haïti cette semaine. Vous avez, à travers vos dîmes, vous servez le Seigneur en ce moment à implanter des églises qui grandissent partout au Québec. Nous soutenons plusieurs églises. Au mois de septembre de cette année, de 2005, il y a moins qu'un an, il y a un jeune pasteur et son équipe qui étaient ici sur l'estrade. On lui a imposé les mains, Christian Lachance, et depuis ce temps-là, nous le soutenons dans une œuvre pionnière à Québec. Il a commencé avec une quarantaine de personnes. Il m'écrit cette semaine, « Bonjour, pasteur Claude, j'espère que vous allez bien. » C'est encore moi, parce qu'il nous écrit régulièrement, on l'aide de toutes sortes de façons. « J'ai des mariages à faire. Je voudrais savoir si c'était possible d'utiliser votre matériel de préparation au mariage. » Premièrement, nous tenons à vous remercier grandement pour votre soutien et votre support mensuel. Je voulais vous donner également quelques nouvelles de l'Église. On a commencé avec une quarantaine de personnes il y a moins qu'un an. Nous continuons depuis le début de l'année d'avoir des nouveaux à chaque semaine. Et maintenant, notre moyenne d'assistance est entre 120 et 130. Depuis janvier, nous avons eu un dimanche à 172, un autre à 160. Et dimanche dernier, nous avions notre premier baptême. 8 personnes ont été baptisées et nous étions au-delà de 180. Cette semaine, vous avez implanté une église à Québec. Quelqu'un dit « Amen ». Dites à quelqu'un près de vous, « Es-tu au courant de mon ministère à Québec? » Dites ça à la personne près de vous. À chaque semaine, on reçoit des emails de gens qui écrivent leur vie à eux ici. Ils ont été aidés par un soin pastoral, ils ont été aidés par Action Nouvelle Vie, ils ont été aidés par toutes ces choses-là qui sont impossibles sans des gens. Je veux que vous leviez la tête, vous qui donnez la dîme par centaines. Souvent, lorsqu'on enseigne sur la dîme, on a des gens qui pensent qu'il y a un focus sur les gens qui sont dans la salle et qui ne la donnent pas. Je voudrais vous dire qu'il y a un focus ce matin aussi de reconnaissance et de gratitude et d'appréciation profonde pour des héros invisibles et méconnus et anonymes qui, semaine après semaine, font la semence, la donnent, sacrifient et permettent à des vies humaines d'être transformées par la grâce de Dieu. Lorsque cette dame écrit « Vous qui donnez vos dîmes », c'est vous qui servez Dieu ainsi lorsqu'elle écrit. Elle écrit très simplement, très directement. Je vais simplement vous le lire, c'est tellement bouleversant. Je vous écris pour dire merci à tous les gens qui donnent la nouvelle vie. Je suis une maman monoparentale de 3 enfants, dont un ado. J'ai eu beaucoup de misère dans ma vie. Mon beau-père me violait quand j'avais 12 ans. On m'a mise dans les foyers d'accueil, j'en ai fait 9. À 17 ans, je suis tombée enceinte, puis à 19 et à 20 ans. Des dizaines de personnes qui fréquentent Action Nouvelle Vie avec des vies comme celle-là. Je travaillais 50 heures par semaine comme serveuse et je faisais des ménages. En 2000, j'ai été diagnostiquée avec le cancer du sein. Je fumais 2 paquets par jour. Et j'ai eu une ablation et de la chimiothérapie. Suite à l'opération, j'ai fait une très grosse dépression et ils ont placé mes enfants. Je voulais mourir. Il y a une femme qui est arrivée dans mon bloc qui est devenue ma voisine et mon amie. Je pleurais dans mon appartement, les rideaux fermés. Je demandais à Dieu s'il existait de me répondre. Un jour, elle a cogné à ma porte et elle a commencé à m'aider. Elle m'a parlé de Jésus et de Nouvelle Vie. Action Nouvelle Vie m'a aidé à chaque semaine. J'ai commencé Vase Restauré, qui est un groupe de soutien pour personnes dépressives. J'ai commencé Vase Restauré avec elle et je sors de ma dépression. Je dors la nuit. Je ne prends plus de boisson ou de pilule. Mon médecin me suit. Il est étonné de mes progrès. J'ai arrêté de fumer. Je retrouve la vie. À Noël 2005, mes enfants sont revenus avec moi. On a eu nos cadeaux de Noël et notre souper à la dinde grâce à Action Nouvelle Vie. Je me suis habillé à Noël à la boutique aide. Écoutez ceci. Ma travailleuse sociale est venue à la distribution des paniers et des jouets et elle a pleuré. À la fin, elle m'a dit « Tu es entre bonnes mains avec ces gens-là. Si toutes les églises étaient comme ça, ma job serait moins pire. » Et la travailleuse sociale dit « Tu vas voir, je vais leur en référer des cas, moi. » Combien disent « Seigneur, amenez. » Sans les dîmes et les offrandes de centaines, qu'est-ce qu'on a à offrir à ces gens-là? Un petit sermon pour venir la semaine prochaine? Sans les dîmes et les offrandes du peuple de Dieu, qu'est-ce qu'on a à offrir à ces gens-là? Un petit sermon pour une petite chanson pour venir la semaine prochaine. Ah, grâce à Dieu, cette dame-là peut venir percevoir des vêtements, percevoir de la nourriture, percevoir de l'aide, peut aller dans un groupe parce que quelqu'un donne une dîme et des soins pastoraux et des pasteurs sont engagés et formés. Et elle peut recevoir de l'aide, puis elle peut s'habiller dignement, puis elle peut venir à une église et entendre la parole de Dieu. Elle dit, « Mes enfants aiment tellement les classes du dimanche, les moniteurs s'en occupent bien, et il y en a même une des animatrices qui appelle ma fille à chaque semaine. Je bénis Dieu pour chaque animatrice, pour chaque personne qui sacrifie de son temps pour servir nos enfants à chaque semaine, puis qui prend le cœur d'appeler une petite fille à chaque semaine pour l'aider à marcher et à s'en sortir. » J'ai recommencé. Vous pouvez applaudir les moniteurs de l'école du dimanche. Elle dit, j'ai recommencé à travailler, puis il y a plusieurs filles qui travaillent avec moi, qui viennent avec moi à l'église. Ma meilleure amie a avancé en avant le matin du suicide, il y a quelques semaines. Je vais faire Vase Restauré avec elle pour l'aider. Puis elle, c'est une dame de sauvée depuis quelques mois qui écrit. J'ai la foi que ce qui m'est arrivé avec Jésus va aussi arriver avec elle. J'aimerais vous dire qu'avec chaque personne qui s'élève et qui dit « Seigneur, et dis-moi les offrandes, c'est moi qui reconnais que tu es ma source.
C'est moi qui viens, qui sanctifie mes finances, et c'est moi qui sème avec sacrifice, avec chaque personne qui donne les dîmes et les offrandes. L'œuvre de Dieu avance et les êtres humains sont touchés. Quelqu'un devrait dire « Amen, je sers Dieu avec les dîmes et les offrandes ». Alors qu'on arrive à la fin du message, pouvez-vous lui donner une dernière main d'acclamation? Demandez aux musiciens de s'approcher. Le commencement et la connaissance de cette foi, je termine avec ceci, le combat et la confiance de cette foi. Abraham a donné la dîme de tout. Et la parole de Dieu nous dit dans le même chapitre qu'alors qu'il a offert, qu'Abraham est venu, qu'il a offert un sacrifice à l'Éternel, la diapo 45, je vous dis, alors qu'Abraham offrit un sacrifice à l'Éternel, tel que l'Éternel lui avait demandé, vous ne commencerez pas à jouer tout de suite, mais simplement vous préparer, les oiseaux de proie s'abattirent sur le sacrifice. Et Abraham était fatigué, il avait peur dans l'obscurité profonde. Et Abraham chassa les oiseaux de proie ce jour-là. L'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant, « La récompense sera à toi. » Alors qu'Abraham a offert un sacrifice, il y a un moment où des oiseaux de proie sont venus pour essayer de lui voler son sacrifice. Abraham était fatigué, Abraham avait peur, il y avait une noirceur, il ne voyait pas autour, la promesse de Dieu semblait loin. Puis alors qu'il a offert un sacrifice, il y a des oiseaux de proie qui viennent pour essayer de lui voler le sacrifice. La foi avec une récompense est une foi qui a un commencement, une connaissance, mais c'est une foi qui prend un courage, un combat et une confiance. Il va toujours avoir des oiseaux de proie qui vont venir pour essayer de vous voler cette bénédiction de donner. Des gens à qui s'adresse ce message, à des gens qui ont laissé les oiseaux de proie venir, ceux qui pratiquent cette foi, mais qui sont en ce moment au milieu des épreuves, puis vous êtes tentés de laisser les oiseaux de proie venir vous voler le sacrifice. Ceux qui n'ont jamais pratiqué cette foi, ceux qui l'ont pratiquée et ont cessé, ceux qui la pratiquent partiellement, ceux qui ont besoin d'un miracle et qui doivent chasser les vautours. C'est une question de confiance dans le caractère de Dieu, donner sa dîme. C'est faire confiance que Dieu, je combats et je chasse les oiseaux de proie parce que j'ai confiance que Dieu va accomplir sa promesse. Honore l'Éternel avec tes biens, avec tes dîmes, et alors tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront de moût. Vous ne regretterez jamais de repousser et de combattre les oiseaux de proie et de continuer à offrir votre sacrifice. Le proverbe le dit de cette façon. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait jamais, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tu ne regretteras pas de chasser les vautours et de continuer à offrir ton sacrifice à l'Éternel. Tu ne le regretteras pas. Il y a une grande différence entre donner par raisonnement et donner par révélation. Donner par raisonnement, c'est voici tout ce que j'ai à payer, voici toute mon économie, puis je pense que je pourrais donner ça à Dieu, puis je vais être correct quand même. Donner par révélation, c'est voici ce qui appartient à l'Éternel, j'ai confiance qu'alors que je lui donne ceci, Dieu va bénir et multiplier tout le reste. C'est un principe continuel et non un pourboire conditionnel. Ce n'est pas un type que tu donnes à Dieu. Franchement, j'ai eu du bon service. De ce temps-là, là, je suis béni, ça va bien, Dieu est bon, franchement. Ah ouais donc, attends un petit peu. On va t'en donner un petit peu plus. On va donner un pourboire. Parce que là, je suis un petit peu plus, j'ai pleuré un petit peu plus ce matin. On va en donner un petit pourboire de plus. J'aimerais vous dire, ce n'est pas un pourboire qu'on donne à Dieu. C'est un principe. C'est-à-dire, c'est pour ça que l'apôtre Paul disait au-delà des émotions, comment tu te sens, tes conditions, ce qui se passe autour de toi. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle des offrandes dans le Nouveau Testament, dit que chacun de vous, voulez-vous dire chacun, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. C'est très, très solennel pour Paul. Il dit quelque chose que tu fais en famille, tu le fais. Ce n'est pas conditionnel. L'apôtre Paul va dire être là. Est-ce que les conditions sont là? Est-ce que je vais être vu? Est-ce que c'est un moment ou un bon ou un non? Non, ce n'est pas dépendant de moi. C'est entre vous et Dieu. Ce n'est pas un pourboire que tu fais à Dieu temporairement, un pourboire passager ou conditionnel. Si ça va bien, puis s'il m'en reste, c'est un principe continuel. Des choses très pratiques. Vous pouvez très, très simplement, vous allez au comptoir, vous prenez un numéro de dîme. À chaque semaine, vous le faites en famille, vous l'enseignez à vos enfants, vous le remettez à Dieu, que vous soyez en vacances, que vous soyez, quelles que soient les conditions, c'est complètement anormal qu'à tous les étés, à toutes les églises du Québec, à partir du mois de juin au mois de septembre, connaissent des baisses terribles. L'assistance ne baisse pas, mais les dîmes baissent parce que pendant qu'on est en vacances, je dépense l'argent de Dieu à faire autre chose. Non, Il y a des choses très pratiques. Ça fait des années que des gens nous demandent. On a maintenant établi en 2005, pour ceux qui le veulent, vous pouvez donner votre dîme par Internet. C'est vous qui choisissez de le faire. Vous le faites en payant vos comptes. Vous le faites, vous pouvez le programmer à l'avance. Vous pouvez le changer le programme quand vous voulez. Mais vous pouvez programmer à l'avance. Pendant que je suis en vacances, je vais continuer à honorer Dieu. Je vais continuer à honorer mes engagements devant le Seigneur. Je vais continuer à lui faire confiance. Dieu est tellement conscient à quel point c'est difficile pour les êtres humains. Cette dimension-là de mammon, des choses matérielles, que la parole de Dieu nous dit qu'Abraham a donné la dîme et qu'Abraham a mis sa confiance en Dieu. Et dans Malachie, le Seigneur répond de cette manière. Vous connaissez le texte, certains d'entre vous. Dans Malachie 3, le Seigneur dit, « Mettez-moi ainsi à l'épreuve. Donnez vos dîmes et vos offrandes. En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes, parce que vous ne les donnez pas la malédiction de Dieu sur vous. Mais maintenant, je vous dis, amenez à ma maison du trésor les dîmes et les offrandes. Mettez-moi à l'épreuve et voyez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous. » Tout ce que Dieu dit, donnez vos dîmes et vos offrandes, puis je vais vous prouver que j'existe. Vous allez donner, puis je vais ouvrir les écluses des cieux. Et le Malachie nous dit, alors, le Seigneur leur dit, vos paroles sont dures contre moi. Lorsque vous dites, c'est en vain que l'on sert le Seigneur, dans le chapitre des dîmes, c'est en vain que nous servons Dieu. C'est un chemin de tristesse que de servir Dieu. Le Seigneur dit, mon cœur est blessé lorsque je vois un peuple qui n'a pas confiance en moi, qui dit, si je donne ma dîme, je vais être dans la tristesse, je vais être dans le malheur, je n'arriverai pas, ça va être terrible. Dieu dit, non, mettez-moi à l'épreuve. Donnez vos dîmes aux offrandes, je vais vous prouver que j'existe. Il y a des centaines de personnes ici qui se lèveraient un après l'autre pour vous dire, j'ai eu des preuves de l'existence de Dieu. Quand j'ai commencé à donner les dîmes et les offrandes, j'ai vu Dieu faire des choses tellement surnaturelles en réponse directe à mes prières que je sais, la dîme a fortifié ma foi dans les miracles de Dieu. Alors, les serviteurs, la Malachie, dernier mot du message, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent les uns aux autres. Et l'Éternel ouvrit le grand livre du souvenir. Et l'Éternel dit, et voici celui qui sera fidèle à moi, qui honore Dieu et qui craint l'Éternel, sera comme mon fils. Et en ce jour-là, je m'occuperai de lui. Et en ce jour-là, on verra la différence entre celui qui craint Dieu et celui qui ne le connaît pas. Dieu dit, fais-le, et ta récompense va être telle que tu vas voir mon existence. Tu vas savoir qui je suis. J'aimerais faire un message, un appel très particulier ce matin. Je vous remercie. C'est un peu plus long que dans les derniers mois. J'aimerais vous demander de pencher la tête pendant un instant. Je vous remercie de votre attention. Mais je veux faire, vous savez, lorsqu'on fait la série Augmente notre foi, je vous demande de demeurer à vos places ce matin. Je vous demande qu'il y ait le moins de mouvement possible, à moins que ce soit pour votre travail ou quelque chose de très important. Mais d'honorer ce moment, pendant que Mélanie va commencer à jouer doucement, je lève mes mains, je lève ma voix. Lorsque nous avons fait la série depuis le début, lorsque nous faisons la série Augmente notre foi, que ce soit pour le pardon, pour la puissance du Saint-Esprit, que ce soit pour les possibilités de Dieu, pour la délivrance, pour quoi que ce soit, nous arrêtons le message et lorsque nous arrivons à la fin du message, nous faisons un appel et permettons à un peuple de dire, Seigneur, augmente ma foi. Je veux cette foi. Eh bien, ce matin, c'est quelque chose de profondément spirituel qui prend place. Et je veux appeler chaque personne, ceux qui donnaient leur dîme, ceux qui ne donnaient partiellement, ceux qui ne la donnaient pas du tout. Je veux vous appeler 26 février 2006 à dire, je veux mettre ma confiance en Dieu. Je veux obéir à Dieu. Je veux vous appeler à mettre Dieu à l'épreuve. Je veux vous défier à ceci. Je veux défier chaque personne dans ce lieu à honorer Dieu avec vos dîmes pendant une année, de le mettre à l'épreuve, pas pendant 3 semaines, pendant une année. C'est-à-dire, pendant 7 années, je mets ma confiance en Dieu, je mets ma confiance que ses promesses sont vraies, je mets ma confiance que le témoignage de millions de personnes et de milliers dans ce lieu est vrai, que Dieu va le faire pour moi aussi. Je vous mets à l'épreuve et Dieu dit, je vais te prouver que j'existe. Je vais te prouver que je suis là. Tu me mets ainsi à l'épreuve, je vais repousser ton ennemi, je vais repousser le voleur, je vais repousser les choses qui t'attaquaient et je vais ouvrir les écluses des cieux sur toi. Je vais répandre ma bénédiction en abondance. Et alors que vous allez tous ainsi donner, vous allez servir Dieu et l'œuvre du Seigneur va se multiplier à Longueuil, se multiplier au Québec et se multiplier parmi les plus pauvres du monde. Alors ce matin, il y a des centaines et centaines dans ce lieu qui donnent déjà et qui ont besoin simplement de venir s'offrir d'une manière fraîche à Dieu. Il y a des centaines qui, c'est la première fois que vous entendez ce message et ce matin est une décision. Comme vous avez entendu un message sur le pardon ou sur la grâce ou sur le salut ou sur toutes les bénédictions que Dieu a pour vous, eh bien ce matin, c'est un message de bénédiction que Dieu a pour vous. Il y a des gens ce matin qui ont besoin d'y revenir. Des gens qui ont besoin de mettre de côté leur cœur dur et fermé. Et de dire, Seigneur, ce matin, je ne veux pas manquer ce que tu as pour moi. Je veux te faire confiance. Je veux te mettre à l'épreuve. Et je veux vivre cette bénédiction dans le nom de Jésus. Et alors que nous allons entrer dans ce défi, je vous défie de dire, je mets Dieu à l'épreuve pendant un an. Pendant un an, je vais le faire. Et vous allez voir la parole de Dieu s'accomplir. Vous allez voir la parole de Dieu vous émerveiller. Vous allez voir les promesses de Dieu vous bénir. Matériellement, par un emploi, par un travail, par la santé, par une opportunité, par un investissement, par une protection divine. Mais aussi spirituellement. Alors que vous allez être fidèle dans les choses matérielles, il y a des choses spirituelles qui vont être déversées sur vous. Le ciel qui va s'ouvrir et l'œuvre qui va avancer. C'est la promesse de Dieu. Et elle est vraie au nom de Jésus. Alors, j'aimerais solennellement appeler tout le peuple à se lever ce matin. Si vous voulez bien vous lever avec moi. Et solennellement, là, si vous le voulez bien, tendre vos cœurs, vos bras vers Dieu et dire, je lève mes mains, je lève ma voix, je mets ma vie devant toi comme une offrande. Et alors que vous le faites, vous puissiez entrer avec moi et dire, Seigneur, augmente ma foi, la foi pour une récompense. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers le Seigneur ensemble et entrer dans ses promesses? Oh, je lève mes mains. J'élève ma voix,
j'élève ma voix,
je mets ma vie,
je mets ma vie devant toi, comme une offrande.
Seigneur, sers-toi de moi. De Dieu lève leurs mains, nous servons le Seigneur tous ensemble.
J'élève
ma voix,
j'élève ma voix,
je mets ma vie.
Enseignemoi.com
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.